nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Né en 1924, Georges Poulot passe une enfance heureuse dans le quartier des Batignolles à Paris. Jeune homme, il se lance dans une carrière de comédien, entre au conservatoire en 1944 à la Comédie Française en 1948, mais la quitte 2 ans plus tard pour abandonner définitivement le théâtre. Il s'engage alors dans la vie littéraire et publie plusieurs textes dans la NRF. En 1953, pour éviter qu'on ne le confonde avec un critique littéraire presque homonyme, il adopte définitivement le pseudonyme de Georges Perros, en souvenir de vacances passées enfant à Perros-Guirec en Bretagne, sa terre d'adoption. Mort en 1978, à 55 ans, il a laissé plusieurs livres et recueils aujourd'hui regroupés dans un beau volume de la collection Quarto chez Gallimard. En décembre 1975, il quittait pour une journée sa maison de Douarnenez pour venir enregistrer à Paris une conversation radiophonique menée par Jean Dève. Dans le premier des 5 épisodes issus de ce dialogue, il évoquait son rapport à la solitude, à la lecture et surtout à l'écriture. Une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 16 février 1976.
Tout commence, tout finit par le langage. Mais vivre reste à faire, qui a quelque chose d'impossible. Être des hommes avec des hommes. Parler. Comme un léger décollement du discours perpétuel. J'essaie d'établir un rapport de conversation à distance, conversation impossible, qui exige l'intervention du hasard.
Georges Perros.
Le décollement dont je parle là, ça s'est passé très vite, mais je ne m'en suis pas aperçu tout de suite, comme souvent. Alors j'ai fait du théâtre parce que je ne savais pas que quelque chose me... C'est comme une maladie qu'on ignore.
Je peux jouer correctement en coulisses. J'étais voué à la littérature, chose solitaire. Dès qu'on me regarde, je suis foutu.
Je me suis dit que j'allais faire du théâtre, que c'était ma passion. Et pendant ce temps-là, une petite bête me travaillait, qui était cette espèce de chose qu'on appelle l'écriture, et qui était déjà en cause, puisque, comme presque tout le monde, j'écrivais des bêtises, des petits poèmes à 12 ans, à 13 ans. Et peu à peu, cette petite bête a pris la place de mon travail théâtral, ce qui fait que j'ai dû quitter le théâtre, j'ai dû m'arrêter.
La nécessité d'écrire est une chance, ou un enfer. Une chance de ressaisir le lieu que le poème appréhende. Un enfer, puisque ce lieu n'est jamais plus celui du poème, mais le fait de lire. Sa nécessité, comment la définir?
On n'est pas là quand ça se passe. C'est un souvenir qu'on a. On s'aperçoit qu'on écrit. Mais qu'est-ce qui a provoqué ce discours, cette littérature, je ne sais pas. Et c'est après qu'on dit qu'il y a quelque chose. Mais ça, ce sont les autres qui peuvent le dire, en fait, qui regardent un peu ce qui s'est passé dans votre vie. Moi, je ne sais pas. Ce décollement, je ne sais pas d'où il vient, évidemment. Je ne sais pas. J'ai pas eu une enfance tragique. Rien n'a été extraordinaire dans mon enfance. Par conséquent, on peut pas dire. Il n'y a pas eu de névrose ou de ponteau de mer comme pour Flaubert, ou de chute de fiacre. Il n'y a rien eu du tout. Par conséquent, je ne sais pas. C'était peut-être un discours de Titi Parisien, vous savez, le côté gamin, comme ça, qui. Et c'était déjà peut-être le décollement, c'est l'espèce d'accent parisien, déjà peut-être, puisque j'étais à Paris et qu'il y avait ce côté-là, peut-être, je sais pas. Mais ça ne justifie pas l'écriture, ça. D'ailleurs, rien.
Collé. Poème bleu. Une vie ordinaire. Papier collé 2.
Les mots sont-ils à écrire?
Georges Perros, Jean Dève.
Une fiction.
Oui, ça, la vie est sûrement une fiction, seulement elle ne se manifeste pas dans l'écriture comme une fiction, parce que c'est une. J'écris à ras de langue. Je veux dire, par là, même si je vis en Bretagne, je peux dire à l'extrême que c'est par manque d'imagination, parce que je préfère la mer, la vue de la mer et l'odeur de la mer aux mots, la mer. Alors, si je ne suis pas dans un endroit poétique en moi-même assez fort pour pouvoir me passer de la nature, disons. Et en fait, je ne peux pas non plus me passer des êtres humains, parce que ce n'est pas que j'en ai besoin, mais c'est une manière de me rappeler à l'ordre. Je peux dire qu'il n'y a pas d'île déserte, n'est-ce pas? On ne peut pas vivre sur une île déserte, parce que il y a toujours vendredi qui arrive, on n'est pas. Alors, vendredi, pour moi, c'est la nature humaine, c'est. Par conséquent, il n'y a pas d'hierarchie dans ma quête, et il n'y a pas d'hierarchie non plus dans la langue, parce que je dis que on écrit comme on peut, c'est vrai. Et il faut dépasser ses limites pour écrire comme on peut. Il faut aller au-delà de ce qu'on peut pour faire ce qu'on fait, parce qu'autrement on le ferait même pas. Je veux dire par là que c'est déjà extraordinaire de pouvoir tracer des lignes et les montrer aux autres. Je trouve ça tout à fait extraordinaire, et surtout qu'ils les récupèrent. Pour nous dire après certaines choses que nous ne savons pas, parce que l'écrit n'a pas d'équivalent dans l'existence. C'est pour ça d'ailleurs que faire des entretiens et parler comme ça est extrêmement douteux quant à l'efficacité, parce qu'il n'y a pas d'équivalence. Je pourrais vous dire ce temps-là dans ma vie, mais pas par l'entretien. Je peux pas ça. On peut pas poser une question à quelqu'un sur sa vie. C'est la vie qui répond, c'est pas. Autrement dit, on ne peut pas couper la vie en morceaux et on ne peut pas la faire mourir de temps en temps pour la décrire et pour l'expliquer. Parce que c'est un peu la faire mourir. Alors le langage, là, est une chose absolument liquide, fluide, qui risque de perturber ce discours, qui est un discours silencieux, qui est un discours rarement interrompu. Écrire, c'est évidemment rayer la vitre pour moi. Je raye un peu la vitre. Et puis voilà. Et puis ça passe. C'est pour passer un obstacle. Parce que je n'écris pas d'une manière assez forte pour qu'il y ait matière. Non, c'est extrêmement fluide, c'est extrêmement rapide, et il faut que ça passe très rapidement. C'est pourquoi c'est la note, évidemment. La note, c'est une espèce de nature de la langue. Mais enfin, maintenant, on a accepté la note, et on dit que ça existe. C'est une langue perpétuellement en état de projet, qui va se faire. C'était d'abord velléitaire, évidemment. C'est velléitaire. Une note, c'est quelque chose qui c'est un pense-bête, je le dis, je crois, quelque part. J'écris des notes comme ça pour écrire quelque chose avec ça, avec ces notes. Et puis, je me trouve coincé. En fait, ça ne devrait pas se publier, les notes. Ça devrait être quelque chose de clandestin et d'un projet. Oui. Sur un chantier de travail. Ce sont des outils sur un chantier. Mais il faudrait construire avec quelque chose avec ça, et moi je ne construis rien du tout. Alors c'est la quantité des notes qui fait peu à peu que se forme une espèce de pâte. C'est la quantité, c'est pas la qualité, c'est la quantité. Parce que si on publie 3 notes, c'est pas la peine, il faut en publier 1000 et 1000 et 1000.
Pour ne rien perdre de cette incessante lecture, tout m'est bon. Bout de papier, souvent hygiénique, ticket de métro, boîte d'allumettes, page de livre. J'en suis couvert.
Les notes. Mobiles, d'un corps, en perpétuel éclatement.
Le corps n'existe pas. C'est comme si on détachait le gésier, la rate. Eh bien, ce sont des notes, ça. Le gésier et la rate, ce sont des notes. Seulement, ils font partie d'un corps, ils sont dans un sac. Or, moi, tout est à l'air. Si vous voulez. Et alors, mon souhait, c'est ça, c'est que ma note s'envole, s'en aille, se change en quelque chose d'animal ou de végétal, mais ne finisse pas sinistrement sur une page, sur une... Vous voyez un peu Héraclite, ces gens-là, parce que ce sont des gens d'aphorismes, en fait. Eh bien, on a l'impression que les aphorismes d'Héraclite ont passé les siècles, pas dans un livre, mais comme des oiseaux, comme des... qui nous sont parvenus. Le rêve, pour moi, ça aurait été ça, ça aurait été de graver sur le mur du vent quelque chose qui se serait ajouté aux choses de la nature. Si vous voulez. Je n'écris pas sur une feuille de papier, j'écris sur un carnet. Un carnet, et j'écris en général dans la rue. Mais si on me demande d'écrire sur une table et de me mettre au travail, je n'ai pas de travail. C'est ce qui fait que c'est assez douloureux. C'est assez douloureux. Et pourquoi la note est douloureuse aussi? C'est parce qu'elle est comme une petite blessure qui n'attend pas d'être cicatrisée. Alors ça peut ressembler de temps en temps à un écoulement de sang. Mais encore faut-il que la note, là, soit prise dans son jet, dans son premier jet, si j'ose dire. Une note ne doit pas moisir, il ne faut pas qu'elle moisisse trop. Alors, il faut qu'elle garde ça, il faut qu'elle fasse sa vie toute seule. Enfin, c'est un peu la petite sœur d'un poème, la note. C'est la petite sœur du poème, qui ne peut pas être intégrée dans un discours, qui n'a la place nulle part. Et en fait, c'est un peu ce que je suis arrivé à sentir pour moi, je n'ai de place nulle part. Les autres, l'appréhension de l'autre, exactement pareil. C'est aussi, ça ne peut se faire que dans le vent aussi, que dans la rue, quelque chose de... Mais s'il faut s'asseoir et se voir et se parler, eh bien là, je ne suis pas dans mon état naturel. Enfin, c'est comme un bateau qui aurait échoué sur une plage.
C'est dans la solitude, définir, qu'un homme pense le vrai de sa pensée, le nu de sa pensée, qui disqualifie tout le reste et rend la vie intérimaire. Donnez des exemples.
Alors la note, c'est une question de vitesse. La note doit être écrite dans une espèce de vitesse. C'est pourquoi je peux parler de la musique, évidemment. Ça a un rapport avec la musique. Ce sont des notes de musique aussi. Qui finissent par, c'est pourquoi je vous parlais de la quantité, qui finissent par décréter une mélodie. Je préfère que la note aille du côté son que du côté sens, c'est certain. Seulement, le drame, c'est qu'il y a du sens et qu'il y en a, pour moi, je trouve qu'il y en a beaucoup trop. C'est pas... je voudrais bien retourner le sens, ça c'est ce que je dis dans la préface, je crois, des papiers collés. Ce qui m'intéresserait, ce serait de retourner le sens. Je veux dire que l'éloignement total de ce qu'on pourrait appeler une maxime ou un jugement de valeur, etc. Et je n'y échappe pas toujours, surtout dans les premiers papiers collés, et ça me désole quand je pense à ça. Parce que si je souhaite l'oiseau, c'est quelque chose de léger et d'heureux. Et un poème, c'est quelque chose aussi qui, quelle que soit sa nature de membre, s'il a des membres tragiques, mais qui est heureux dans son corps. comme un tableau. Un tableau peut présenter des tâches terrifiantes et des moments de couleur tragique, mais dans son sac, sur sa toile ou sur son mur, peu importe, il est heureux. Heureux d'avoir été fait, d'avoir été mis au monde. Et d'être tout seul au monde à partir de là. Alors la note, c'est ce que je disais aussi, c'est une orpheline. Un recueil de notes, c'est un couvent d'orphelins, c'est un orphelinat.
Ce n'est pas un livre.
Ça ne forme pas un livre, justement, et c'est pour ça que... Où on écrit avec un projet romanesque, c'est-à-dire que la mélodie est soutenue par un accompagnement, et alors ça c'est ce qu'on appelle les personnages, ou les anecdotes, enfin, etc. Ou on laisse le corps entièrement ouvert sur la table, et à partir de là, eh bien, il faut y faire, attention. Et il ne faut pas que tout s'envole, justement. Il faut que quelque chose se forme, tout de même. Il faut qu'il y ait une espèce de travail interne, de travail organique, qui fait que la note épouse l'autre, il faut qu'elles soient un peu complices, les notes, et pour justement former cette espèce de mélodie, cette espèce de musique, qui n'a pas de sens éthique, justement, qui n'a pas de... Or, dans les premiers papiers collés, il y a beaucoup trop de restes d'un moralisme extrêmement vulnérable et élémentaire, enfin. Alors, je comprends très bien les critiques qu'on peut faire à ça. Mais ça n'est pas mon projet. Mon projet, c'est que quelque chose se forme tout seul dans les régions de travail dans mon corps et que tout cela se fasse tout seul, en quelque sorte, parce que ça ne se travaille pas. Je ne peux pas travailler, ça ne se travaille pas une note. On ne peut pas y toucher. C'est définitif. Alors, c'est tragique de ça, parce que quand c'est rien, ben c'est rien.
Comment rentrer dans son corps? Les autres font qu'on s'y réfugie plutôt qu'on y rentre.
Le corps de la note.
Le corps, on ne peut pas appeler ça autrement qu'un véhicule qui nous amène où on sait. Il est donc normal, je trouve, tout à fait élémentaire de vouloir se passer de son corps. Comme ça, on ne meurt pas. Mais, ce serait très intéressant de pouvoir s'enlever tout et de pouvoir vivre tout de même. Ce serait très intéressant, seulement c'est pas possible. C'est le chirurgien qui s'en occupe.
Je ne me manque pas, je ne me tue pas non plus.
Je ne me manque pas, mais je ne me tue pas non plus. C'est pour ça que je vous disais tout de même qu'il y a, un bonheur de cela, il y a un état qui est heureux. Et de temps en temps, par exemple, les notes arrivent, se pullulent. Parce que, par exemple, quand je suis tout seul dans un restaurant, je mange tout seul, je suis là et je suis tout seul. Eh bien là, ça sort. Parce qu'il y a une espèce là de vacances qui me rappelle un état de solitude qui a été le mien très longtemps et qui était mon état de travail. Je veux dire par là que je travaille partout sauf où il faudrait que je travaille si j'étais un écrivain intéressant, c'est-à-dire quelqu'un qui, pour moi, un écrivain, c'est quelqu'un qui travaille bien, qui travaille bien. Moi, je travaille pas bien, c'est ça. Et la note sort de ce manque de travail.
Ce que j'écris est à lire dans un train par un voyageur qui s'ennuie et qui trouve sur la banquette, oublié, un de mes bouquins.
Moi, je suis pour les livres bien faits, bien, bien, ou alors c'est Montaigne, ou alors c'est Proust, ou alors c'est Kierkegaard, mais enfin, ou c'est Nietzsche, n'est-ce pas? Nietzsche, on peut dire que Nietzsche procède aussi par notes, mais ces notes se suivent dans un lieu, dans un espace mental tout à fait extraordinaire. Là. Au contraire, là, ce sont des choses très très solides. Ça ne s'envole pas, mais c'est l'œuvre entière qui s'envole finalement. Alors que là, non, ce sont des bouts de papier. Et quand je disais oiseau tout à l'heure, en fait, ce sont des bouts de papier qui volent au vent. C'est tout. Comme des billets de banque. Par grand vent, quand on ouvre son portefeuille et que les ça s'en va. Et ben c'est très bien ça, moi je trouve ça très bien, parce que ça implique une espèce de solitude et ça implique une espèce de vue sur le monde qui me ressemble finalement, qui ne nécessite pas du tout ce genre d'entretien et ce genre d'intérêt qu'on peut porter à ça. On peut porter l'intérêt à ça que dans la mesure où ça fait partie maintenant de la littérature et que c'est devenu quelque chose, on appelle ça les fragments, et aujourd'hui évidemment c'est très... On a reconnu ce genre de travail, mais pour moi ça n'est pas un travail du tout. Je veux dire par là que le fragment, s'il n'est pas naturalisé en poésie ou en pensée, c'est beaucoup dire, ou en non-sens plutôt, il est comme ça, comme son auteur et comme sa victime, il est dans le vent et il vaudrait mieux lui le laisser tranquille, c'est ce que je veux dire. La parole ne doit être utilisée que contre ça, justement. Et c'est l'ennui qu'il y a dans les rapports humains, c'est que tout le monde vous croit une arrière-pensée, tous les gens vous croient une arrière-pensée, vous croient quelque chose, vous croient un masque, alors que le seul projet d'une parole, c'est d'être jusqu'au bout et au bord de la vérité. Alors où est le masque, où est la... On ne se fait pas assez confiance, je ne crois pas. C'est ça qui est terrible. C'est ça l'abandon aussi. On s'officialise trop, on ne se croit pas suffisant dans la mesure comme ça, quotidienne justement. Alors évidemment c'est difficile parce que qu'est-ce qu'on a à se dire? Moi par exemple, je suis tout seul toute la journée. Mais qu'est-ce que j'ai à dire après quand je sors de ma baraque et que je rencontre des gens dans la rue? Rien. Bonjour, ça va, il fait beau. Bon. Je veux dire par là que la conversation, c'est un privilège extraordinaire et que c'est un privilège de l'amitié. Ben c'est très rare et puis c'est peut-être quelque chose d'adolescent. Hein? Peut-être, c'est comme les lettres qu'on écrit quand on est jeune. Enfin, on écrit des lettres de 12 pages et tout de même ça diminue au fur et à mesure. Ben, la conversation, c'est pareil.
Le mystère, vouloir tout dire et s'apercevoir que la marge est tout aussi grande qui nous sépare d'eux, qui nous sépare du.
Alors moi, je suis pour la conversation. Pourquoi? Parce que je me parle tout seul toute la journée, naturellement. Alors j'ai un discours ininterrompu, c'est pas la poésie, c'est le discours qui est complètement ininterrompu. Comme ça n'arrête pas de se trimballer dans le crâne et je ne peux pas le livrer.
Avec la participation de Jean-Marie Gibal. Réalisation Alain Paulet.
La parole écrite voudrait bien passer inaperçue. Elle voudrait être égale au vent, à la pluie, aux personnages et aux choses du quotidien qu'elle vise pour s'y fondre.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 16 février 1976. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.